Voilà, c'est pour moi une grande source de joie d'être parmi vous, de voir aussi autant de monde. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de monde ici à Ouro, dans cette petite église de maison. Alors, effectivement, je vais vous parler de ce passage que Jean-Claude nous a très gentiment lu et qu'on trouve dans la première épître de Paul aux Corinthiens. Je viens de terminer cette épître à l'église anglaise. On a couvert toute l'épître. Et je dois dire que c'était une grande joie pour moi de l'étudier parce que finalement c'est une épître qui est très très pertinente pour la situation des églises d'aujourd'hui. Et comme certains d'entre vous le savez peut-être, c'était une église qui avait beaucoup de problèmes. Il y avait de l'immoralité, un manque d'amour, il y avait de la rivalité, il y avait des problèmes doctrinaux, des problèmes moraux qu'on trouvait même pas chez les païens, toutes sortes de problèmes. Mais c'était quand même une véritable église de Christ. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul prend sa plume et écrit cette première épître aux Corinthiens. Alors cette église de Corinthe était aussi, comme Jean-Claude l'a dit, une cité très moderne. Et il y avait une chose qu'ils aimaient particulièrement, ces Corinthiens, c'était la philosophie. Ah, qu'est-ce qu'ils aimaient la philosophie! C'était des philosophes. Et puis dans cette ville de Corinthe, dans ce monde gréco-romain, il y avait autant de philosophie qu'il y avait de philosophes. Et chaque philosophe, bien sûr, avait sa petite suite de disciples. Et chaque philosophe prétendait avoir la meilleure philosophie. Et donc, il y avait beaucoup de conflits entre ces différents philosophes. Et cette mentalité, malheureusement, avait envahi l'Église. Et qu'en quelque sorte, il y avait des gens dans cette Église de Corinthe qui avaient voulu rabaisser le message de l'Évangile qui contient la sagesse de Dieu à une simple philosophie humaine. Donc, Paul nous parle dans sa première épître de ces tensions qu'il y avait à Corinthe. Il y en a qui disaient, mais moi je suis de Paul, non, moi je suis d'Apollos, non, moi je suis de Cephas, non, moi je suis de Christ. Parce qu'en fait, ils rabaissaient l'évangile et ceux qui avaient prêché l'évangile dans cette église à de simples philosophes. Et puis un disait, oui, mais je préfère l'évangile qui a été prêché par l'apôtre Paul. Puis l'autre disait, non, moi je préfère l'évangile qui a été prêché par l'apôtre Pierre. Puis un troisième, non, par celui qui avait été prêché par Apollos. En fait, ils avaient tous prêché le même évangile. C'était uniquement dans leur tête et dans leur mentalité faussée que ces Corinthiens interprétaient mal le message qui leur avait été annoncé. Et ce que ces Corinthiens faisaient aussi, c'est qu'ils comparer cette sagesse humaine, cette sagesse des philosophes à la sagesse de Dieu, à la sagesse de l'Évangile révélée par l'Évangile. Et il y en a dans cette église qui disaient, mais cette sagesse de l'Évangile, de Dieu, mais elle est un peu simpliste. Je suis désolé, mais elle n'arrive pas à la hauteur de ces systèmes tellement sophistiqués de la philosophie humaine. Et Paul doit traiter ce problème. Et Paul va montrer, il va parler beaucoup de la sagesse dans les premiers chapitres de cette épître. Il va beaucoup parler de la sagesse de Dieu. Et Paul va montrer dans le premier chapitre que la croix de Jésus-Christ est le cœur même de la sagesse de Dieu. Et vous avez ce verset dans les. Ce passage dans les versets 22 à 24, où Paul dit ceci, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Oui, pour le juif, un Messie crucifié, ce libérateur promis qui devait les libérer de l'oppression romaine, un sauveur tué, qui meurt sur une croix infâme, pierre d'achoppement, ça, inacceptable. Pour les Grecs, mais pourquoi est-ce qu'un homme si bon doit mourir? Ça n'a pas de sens, c'est de la folie. Mais pour tous ceux qui avaient été appelés, tous ceux qui avaient été visités par la grâce de Dieu, qui par grâce avait reçu cette sagesse de Dieu. C'était la puissance de Dieu. C'était la clé même du salut et de la vie. Et c'est ce que fait toujours la sagesse de Dieu. Elle met sans dessus dessous les valeurs humaines et sous surtout la sagesse humaine. Ce qui paraît de la folie aux yeux des hommes révèle en fait la puissance et la sagesse de Dieu. Et toujours dans le chapitre 1er, vous avez ces versets, les versets 26, 27, 28. « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise et celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. » C'est toujours comme ça que Dieu agit. Il prend les choses faibles de ce monde, les choses pour lesquelles le monde ne prête aucune attention particulière. Il y ajoute le miracle de sa grâce, et c'est au travers de ces choses, au travers de ces personnes, que Dieu agit avec puissance. Et c'est dans le but que nulle chair, aucun homme ne puisse se glorifier. Alors, dans le passage qu'on a lu, qui était effectivement un passage assez complexe à première vue, très dense, pas facile à comprendre, Paul répond en fait à une question. Si cette sagesse de Dieu est tellement supérieure à celle des hommes, comment peut-on la comprendre? Comment peut-on la discerner? Comment peut-on l'assimiler? Comment peut-on voir sa beauté? Explique-nous maintenant. Et Paul maintenant va répondre à cette question. Et le titre de ce message, c'est « Comprendre la sagesse de Dieu ». Et il y a deux points qu'il faut traiter dans ce passage. Vous verrez, ce n'est pas finalement trop difficile, je crois, ce passage. J'espère que vous le comprendrez. Il y a deux points. Le premier point que Paul développe est celui-ci. La sagesse, la vraie sagesse, celle de Dieu, ne peut pas être découverte avec les facultés humaines. Elle ne peut pas être découverte humainement parlant. Et deuxième point, la sagesse, la vraie sagesse, la sagesse de Dieu, est divinement révélée. C'est les deux points qu'il va développer. Puis je crois que vous allez pouvoir suivre la structure de la pensée de l'apôtre dans ce passage. Alors, il est bien clair, mes amis, que pour une créature inférieure, il est impossible de comprendre une créature plus développée. Pour qu'une puce puisse comprendre un chien, il faudrait qu'elle soit aussi développée que le chien, pour le moins. Ou pour que le chien puisse comprendre un homme, il faudrait que le chien soit aussi développé que l'homme. Alors, quelle est la distance et quelle est la différence maintenant, mes amis, entre ce Dieu infini, éternel, inchangeable et nous, ses créatures? Et comment l'homme pourrait-il prétendre comprendre la sagesse de Dieu avec ses seules ressources humaines? C'est absolument impossible. Alors bien sûr que les gens se font toutes sortes d'idées au sujet de Dieu. Parlez à gauche et à droite autour de vous, demandez ce que les gens pensent de Dieu et ils vous donneront toutes sortes d'idées. Dieu doit être comme ceci, pas comme cela, il fera ceci ou pas cela. Il y a des idées intéressantes, d'autres moins, mais à la fin de la journée, ce ne sont que des idées, que des spéculations. Il n'y a aucun moyen de prouver si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Mais les opinions des hommes au sujet de Dieu n'ont à cause de cela pas de valeur, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre leur Créateur sans l'aide de ce Créateur. Paul écrit ceci au verset 6 et 7 de notre passage. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Le mot « parfait » ici, c'est ce grand mot grec « teleios » qui veut dire « mûr »,« mature ». Donc c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits ou parmi ceux qui sont mûrs. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Oui, la sagesse de Dieu n'est pas une sagesse de ce siècle. Et le mot siècle ici ne se rapporte pas simplement au siècle de l'apôtre Paul, mais c'est vraiment un mot général qui couvre toute l'histoire de l'homme. Ce n'est pas la sagesse d'un siècle particulier. Et ce n'est non plus pas une sagesse qui peut être comprise par certains grands hommes de ce siècle. Les grands penseurs, les grands philosophes, les grands chefs religieux, l'élite, les universitaires, ceux qui ont fait des études. Non, ils ne sont pas capables de comprendre cette sagesse. Même pour de tels hommes, tellement instruits, elle demeure encore un mystère. Et la crucifixion démontre ce que Paul dit. Ça montre que les chefs, les grands de ce monde, n'ont pas compris la sagesse de Dieu. Paul écrit « sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. » C'est Christ ici, le Seigneur de gloire. Hein? Les hommes n'avaient pas compris la sagesse de Dieu, sinon ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Les chefs des Juifs et les chefs parmi les païens n'ont pas compris ce que Dieu faisait au travers de la venue de son Fils dans le monde. Pour les Juifs, le Christ, un Christ crucifié, c'est une pierre d'achoppement. Et pour les païens, c'est une folie. C'est tellement extraordinaire, mes amis, ce que dit Paul ici. Quand vous vous souvenez ce que l'apôtre Jean dit dans son prologue, dans le prologue de son évangile au sujet de Christ, il dit qu'en Christ, il y a la lumière. En lui, il écrit, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En lui, dit Jean, il y a la grâce, et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. En lui, il y a la gloire. Jean écrit, et la parole a été faite chair, et elle a été habitée parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et pourtant, mes amis, aux yeux du monde, Christ était tout sauf glorieux. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris ce Seigneur de gloire, ils l'ont cloué sur une croix et ils l'ont laissé mourir sur cette croix. Seule la mort la plus atroce, la plus cruelle, la plus méprisable, la plus honteuse était assez bonne pour ce Seigneur de gloire. Pourquoi est-ce que le monde agit comme ça? Parce qu'il ne comprend pas la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu est une pierre d'achoppement pour l'homme naturel. Donc l'homme se révolte contre cette sagesse. Et ce qui s'est produit au temps de Christ est un cycle qui se reproduit constamment au travers de l'histoire. Paul a dû dire devant le roi Agrippa, il parle là de ses années d'inconverti alors qu'il persécutait l'Église, il dit ceci, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Et c'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues, et je les forçais à blasphémer. Dans mes accès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. Voilà pourquoi les chrétiens dans tant de régions du monde font l'objet de tant de persécutions. C'est simplement la répétition de ce cycle qui s'est produit à la croix et qui se reproduit encore aujourd'hui et qui se reproduira jusqu'au dernier jour de ce monde. Alors là, il y a une question tout de suite qui est importante pour nous. Pourquoi est-ce que l'homme réagit-il comme ça? Pourquoi l'homme, lorsqu'il est confronté à la sagesse de Dieu, réagit-il avec tant de violence, de virulence, de cruauté, de méchanceté? Paul donne la réponse au verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et là, Paul cite deux versets de l'Ancien Testament du prophète Ésaïe au chapitre 64 et au chapitre 65. C'est un très beau verset qui a souvent mal été compris, interprété. Paul ici ne parle pas des merveilles de l'univers de Dieu, qu'on peut contempler comme ça, mais il parle des merveilles de la sagesse de Dieu. Tout le contexte du passage, c'est la sagesse de Dieu. Il parle de ces merveilles de la sagesse de Dieu. Ces choses qu'on n'a pas, que l'œil n'a point vues. Et ce que l'apôtre veut dire ici, c'est que l'homme, avec ses ressources naturelles, comme l'œil ou comme l'ouïe, ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu. Il ne peut pas se dire, je vais observer maintenant attentivement cette sagesse de Dieu pour l'analyser et la comprendre. Ça ne va pas marcher. L'homme peut même prendre les instruments d'observation sophistiqués, poussés. Il peut prendre le plus puissant des microscopes. Il dit, je vais examiner au microscope maintenant la sagesse de Dieu et je vais la comprendre. Ça ne va pas marcher. Il ne va pas la comprendre. Et les facultés internes de l'homme, qui sont la raison, l'intelligence, son esprit, sont tout aussi impuissantes à découvrir et à comprendre la sagesse de Dieu. Donc, les deux grandes ressources de l'homme pour étudier, qui sont l'observation et la raison, sont en fiasco total face à la sagesse de Dieu. Mais c'est là la beauté de l'Évangile, mes amis. La vérité de Dieu, la vérité au sujet de la personne de Dieu, de l'œuvre de Dieu, en un mot, cette sagesse de Dieu, elle est néanmoins révélée aux enfants de Dieu, donc à ceux qui croient. Des choses que Dieu, dit Paul, a préparées pour ceux qui l'aiment. Vous savez que Christ, une fois, a parlé de l'incrédulité de ces villes comme Bethsaida et Chorazin. Et il avait le cœur très lourd parce qu'il y avait tellement d'incrédulité dans ces villes, malgré les grands miracles que Christ avait accomplis. Et il s'est mis à prier après à son Père. Et il a dit ceci dans sa prière. « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Donc voilà le premier point. La sagesse de Dieu ne peut pas être comprise avec les ressources humaines seules. C'est impossible. Donc ça nous conduit au deuxième point. La vraie sagesse est divinement révélée. Ce que l'homme ne peut pas comprendre et résoudre avec ses propres facultés, eh bien Dieu va le faire au travers de la personne et de l'œuvre du Saint-Esprit. Et ce que Dieu va faire dans le salut, c'est que le Saint-Esprit va littéralement envahir le cœur et l'esprit de l'homme pour lui révéler la sagesse de Dieu, la beauté de l'Évangile, la gloire du Christ. Alors, pour comprendre maintenant comment le Saint-Esprit va révéler cette sagesse, il y a juste trois mots à vous souvenir, c'est pas trop. Alors, vous vous concentrez, puis à la fin du culte, je vais vous demander de me répéter les trois mots. Non, ce n'est pas vrai. Je vous taquine. Il y a juste trois mots. Le premier mot, c'est révélation. Le deuxième mot, c'est inspiration. Le troisième mot, c'est illumination. Et on va regarder à ces trois mots et vous allez comprendre le passage, ce que l'apôtre Paul dit. Alors, le premier mot, c'est révélation. Regardez au verset 10 et 11. « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. » Alors, voyez bien ce que Paul a dit dans la première phrase. « Dieu nous les a révélé. » Il y a une révélation. Il y a un message qui a été donné de la part de Dieu, qui a été divinement donné par lui. Et c'est par le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, que cette révélation, cette transmission s'est opérée. Dieu n'a pas utilisé un ange pour donner cette révélation. Parce que c'est la parole de Dieu, la Bible, ce n'est pas un ange qui en est l'auteur. Oui, les anges ont été utilisés puissamment à Dieu pour accomplir différentes œuvres de grâce parmi les hommes. Mais ce n'est pas un ange qui est l'auteur de la Bible. C'est le Saint-Esprit. Alors, pourquoi est-ce que Dieu a dû utiliser le Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas utilisé un ange pour donner cette révélation? Bien, Paul, il donne la réponse au verset 10. Car l'Esprit sont de tout, même les profondeurs de Dieu. Et pour nous aider à comprendre ici le problème, Paul va utiliser une illustration. Et en fait, ce que Paul va faire, il va parler de la connaissance que le Saint-Esprit a de Dieu. Il va comparer cette connaissance avec la connaissance qu'un homme a de lui-même. Est-ce qu'il y a un autre homme qui peut connaître un ami, un voisin, un collègue, aussi bien que cet ami, ce voisin ou ce collègue se connaît lui-même? Non, évidemment pas. Vous ne pouvez pas connaître le monde secret de mes pensées, de mes émotions, heureusement d'ailleurs, et inversement. Hein. Même dans le mariage, qui est pourtant la relation humaine, la plus proche, la plus intime, la plus profonde, la plus belle, même les époux ne peuvent pas se connaître mutuellement aussi bien qu'ils se connaissent eux-mêmes. Hein. Qui connaît les pensées de l'homme si ce n'est l'homme lui-même? Donc, qui peut connaître Dieu parfaitement, complètement, totalement? Un ange? Non, un ange est créé. Dieu est éternel, il est infini, il est inchangeable. Il est le seul à posséder ces qualités-là. Ce sont des qualités divines. Aucune autre créature ne possède ces trois attributs. Infini, éternel, inchangeable. Donc, seul un être qui est infini, éternel, inchangeable, peut connaître un Dieu qui est éternel, infini, inchangeable. Donc, bien sûr qu'il n'y avait que le Saint-Esprit qui peut nous donner cette révélation. Et rien, bien sûr, rien de Dieu n'est caché au Saint-Esprit. Parce qu'on écrit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Oh, mais c'est magnifique ça, parce que c'est cet Esprit Saint qui a agi, qui a donné la révélation dont nous avons besoin. Cet Esprit qui comprend tout de Dieu, qui sait tout de Dieu et qui sonde tout en Dieu. Donc, il a donné une révélation parfaite pour nous révéler la sagesse de Dieu. Donc ça, c'est le premier mot, révélation. Deuxième mot. Inspiration, vous êtes bon là. Inspiration, effectivement. Ce Saint-Esprit maintenant va travailler par inspiration. Regardez au verset 12 et 13. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Alors Dieu a donné sa révélation, c'est la parole de Dieu. Mais Dieu a utilisé des hommes pour écrire cette révélation. Comment Dieu va-t-il faire maintenant pour que cette Bible que nous lisons, soit véritablement sa parole, qu'elle ne soit pas trafiquée, changée, modifiée? Eh bien, il va procéder maintenant par inspiration. Et les pronoms « nous » que nous avons lus dans ces versets, ce n'est pas tous les hommes en général ou tous les chrétiens, ça c'est les apôtres, c'est les prophètes, ce sont tous les hommes que Dieu a utilisés pour écrire la Bible, des hommes qui ont été inspirés. Et seulement ces hommes qui ont été inspirés par le Saint-Esprit ont pu écrire la parole, la Bible, la parole de Dieu. Jésus avait promis à ses disciples dans Jean 14, c'est ce discours de la chambre haute où Christ prépare ses disciples pour sa mort à venir. Il dit ceci, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Une magnifique promesse, une belle promesse qui a été donnée pour le bien de toute l'Église, mais qui s'applique seulement aux apôtres. C'est eux seuls qui ont été inspirés infailliblement par la puissance du Saint-Esprit pour écrire le Nouveau Testament. Donc, lorsque Paul et tous les autres qui ont écrit la Bible, que ce soit les prophètes de l'Ancien Testament ou les apôtres du Nouveau Testament, quand ils ont écrit, ils n'ont pas écrit leurs propres idées. Ils ont simplement écrit ce qui avait été inspiré par le Saint-Esprit. Et c'est ce que Paul affirme au verset 12 et 13. « Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Comme vous le savez sans doute, il y a beaucoup de passages dans le Nouveau Testament qui disent que la Bible est inspirée. Hein? Un grand passage tellement connu, c'est dans Timothée 2, Timothée 3, 16. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Et le terme « inspiré » en grec signifie en fait, représente deux mots, « théos » et « pnostos ». « Théos » Dieu, « pnostos » c'est « esprit » ou « souffle ». Ça veut littéralement dire que le souffle vocal de Dieu est dans l'Écriture que Dieu a révélée et inspirée aux hommes. Et Pierre aussi parle de cette inspiration. Alors peut-être ça vaut la peine pour vous de regarder dans votre Bible, si vous le voulez, dans la deuxième épître de l'apôtre Pierre, c'est le verset 21. Et Paul ici va, Pierre va parler de cette inspiration justement. C'est deuxième épître de Pierre et c'est le chapitre 1 et c'est le verset 21. Oui. Il dit ceci. Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors, dans ce verset, c'est intéressant parce que Pierre dit clairement que les hommes ont joué un rôle dans cette rédaction de la parole de Dieu. Hein, il dit « des hommes ont parlé ». Puis c'est vrai que lorsque vous regardez aux pages du Nouveau Testament, ou de l'Ancien Testament d'ailleurs, on voit tout de suite cet aspect humain. Ces auteurs de la parole de Dieu, ces hommes que Dieu a utilisés, bien, ils ont écrit à partir de leurs propres expériences, de leur propre vécu. Ils ont utilisé leur propre vocabulaire. Chacun, ils avaient leur propre style pour écrire. Vous regardez à certains styles et vous voyez tout de suite de grandes différences entre Ésaïe et Amos, ou Luc et Marc, ou Paul et Jean. C'est des styles tout à fait différents. Certaines personnes, comme Luc, ils ont même dû faire des recherches pour écrire son évangile ou bien écrire le livre des Actes. Daniel, lui, le prophète, il n'a pas toujours tout compris de ce que Dieu lui avait révélé. Et comme vous savez, Paul écrit des très très longues phrases que des fois il ne termine pas toujours. Hein? Donc on voit que, oui, la Bible a clairement été écrite par des hommes. Hein? Mais la Bible montre aussi qu'elle a été écrite par Dieu. Car Pierre dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et ce mot « poussé », c'est un mot très intéressant. C'est un mot grec que Paul utilise aussi pour parler du naufrage de l'apôtre Paul quand il est emmené prisonnier à Rome. Et Luc décrit la tempête et le navire dans ces circonstances de la manière suivante. Il dit « Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent et nous nous laissâmes aller à la dérive. » Alors c'était un bateau, c'était toujours un bateau, mais c'était un bateau qui avait cessé d'avoir la capacité de se diriger lui-même. Il était entraîné, poussé par la puissance de la tempête. C'est toujours un bateau. Eh bien, c'est ce que Pierre dit ici, quand des hommes, que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé. C'est le même mot grec. C'est des hommes qui étaient entraînés, poussés par le Saint-Esprit. Des hommes qui étaient pleinement eux-mêmes, hein, qui ont écrit ce qu'ils ont écrit. Il ne faut pas s'imaginer, mes amis, que lorsque ces hommes ont été inspirés par le Saint-Esprit, ils étaient dans une sorte de transe, et puis ils ont écrit mécaniquement comme ça, dans une sorte d'extase. La parole de Dieu, absolument pas, mes amis. Ils étaient totalement eux-mêmes, pleinement eux-mêmes. Mais ce qu'ils ont écrit, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas vous expliquer complètement ce mystère, il me dépasse, il me transcende. Mais c'est ce que la Bible montre clairement. Et bien sûr que Dieu aussi a utilisé différents moyens pour inspirer cette parole à ses hommes. Certains hommes, comme je l'ai déjà dit, comme Luc, ils ont fait une petite enquête avant de pouvoir écrire leur livre. Paul, il a reçu son évangile par une révélation directe, il nous le dit dans son épître aux Galates. Le Seigneur est venu à Daniel dans une vision. Lui, Ésaïe, il a entendu la voix du Seigneur alors qu'il accomplissait son ministère de prêtre dans le temple. Qui enverrons-nous? Qui ira pour nous, dit le Seigneur? Hein? Donc, on voit que les méthodes ont changé, ont varié, mais le résultat final était toujours le même. C'était la parole de Dieu qui a été inspirée dans le cœur de ces hommes. Et ce qu'ils ont écrit, c'est vraiment la révélation de Dieu. Et ce qui est particulièrement intéressant, mes amis, c'est de voir comment Paul parle de cette inspiration. Parce que ce n'est pas seulement le message en tant que tel qui a été inspiré, mais les mots mêmes avec lesquels ce message a été écrit ont aussi été inspirés. Regardez à ce qu'il dit. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je préfère presque encore la traduction anglaise parce qu'il parle de paroles spirituelles. Mais ça va aussi, un langage spirituel. Et c'est vrai, mes amis, que l'Église a toujours cru en l'inspiration verbale de la parole. Les mots mêmes ont été inspirés. Et c'est pourquoi Jésus-Christ a pu dire, lorsqu'il était tenté dans le désert par Satan, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. » La parole de Dieu a été donnée avec les mots de Dieu. C'est ça ce qu'il faut se souvenir. Et toute cette parole, toutes ces paroles qui sortent de la bouche de Dieu, parce qu'elles sont inspirées, eh bien, elles ont l'autorité sur notre vie et sur notre foi. Les choses que Dieu a données par sa grâce ont été inspirées par le Saint-Esprit. Donc, on a vu deux mots jusqu'à présent. On a vu le mot « révélation », c'est le Saint-Esprit qui a donné cette révélation, parce que lui, il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, c'était la seule personne qualifiée pour pouvoir donner cette révélation au sujet de Dieu. Puis après, on a vu le deuxième mot, « inspiration ». Ce Saint-Esprit a inspiré certains hommes pour qu'ils donnent la révélation exacte de Dieu aux hommes. Hein, le troisième mot. Vous vous rappelez le troisième mot? Illumination. Mais vous êtes bon, dis donc là. 10 sur 10, là. Illumination. Paul écrit, versets 14 et 16, à 16. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée du Christ. Mes amis, vous pouvez lire la Bible. Vous pouvez la lire à maintes et maintes reprises. Vous pouvez la lire dans plusieurs langues différentes et toujours pas la comprendre. Vous pouvez étudier la Bible. Vous pouvez aller dans les plus grandes facultés de théologie. Vous pouvez l'étudier pendant des années et toujours pas la comprendre. Vous pouvez mémoriser la Bible. Vous pouvez apprendre par cœur des chapitres entiers de la Bible et toujours pas la comprendre. Oui, les pharisiens du temps de Christ, c'était les experts de la parole de Dieu, c'était ceux qui devaient l'enseigner, c'était ceux qui devaient l'expliquer. Mais ils n'ont pas compris la révélation de Dieu. Ils n'ont pas compris que le cœur de la révélation de Dieu dans l'Ancien Testament, c'est une personne, c'est ce prophète dont parlait Jean-Claude, c'est le Christ. Parce que s'ils avaient compris cette révélation, ben ils n'auraient pas pris le Seigneur de gloire. Il ne l'aurait pas crucifié, c'est clair, c'est limpide, n'est-ce pas? Donc, voilà. Paul va d'ailleurs parler justement de cette incapacité des Juifs à comprendre cette parole, la révélation dans sa deuxième épître. Il dira ceci, c'est 2 Corinthiens chapitre 3. Si je me rappelle, oui, c'est ça. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 à 16. Il parle ici des Juifs, donc des Juifs incrédules, l'apôtre Paul. 2 Corinthiens chapitre 3, les versets 14 et suivants. Il dit ceci. « Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. » C'est très, très clair. Les Juifs n'ont pas compris la révélation de Dieu parce qu'ils n'avaient pas la bonne illumination. Ils n'ont pas compris le but de la loi de Dieu que Dieu leur avait donnée dans l'Ancien Testament. Ils n'avaient pas compris que le but de cette loi, c'était pour leur montrer leur caractère pécheur, qu'ils n'arrivaient pas à être justes par leur comportement devant Dieu et qu'ils avaient besoin d'un sauveur. Ils n'ont pas compris ça. Stupidement, ils ont cru que cette loi leur avait été donnée pour qu'ils puissent se justifier par leurs bonnes œuvres. Ça ne va jamais marcher, ça. Et ça ne marchera jamais. Ils n'ont pas du tout compris. C'est seulement lorsqu'on se tourne vers Christ, mes amis, dans la repentance et la foi, que le voile est ôté. Tout d'un coup, toutes les choses deviennent claires. Toutes ces brumes, tous ces voiles, tous ces nuages qui enténèbrent l'esprit de l'homme, l'intelligence de l'homme, s'est levé. C'est le ciel bleu. Et tout d'un coup, tout devient clair. Moïse, quand il devait comparaître devant Dieu dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, il enlevait son voile. On lit dans le livre de l'Exode, au chapitre 34, « Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. » Pourquoi est-ce qu'il faisait ça? Parce que Moïse, si je peux dire, ça peut une image, mais il y a un principe spirituel, il ne voulait pas qu'il y ait quelque chose entre lui et son Dieu, entre lui et la révélation de Dieu qu'il devait recevoir. Donc il ôtait son voile parce qu'il voulait avoir la vision la plus claire, la plus limpide, la compréhension la plus juste, la plus pure de Dieu. Ben, c'est la même chose avec les pécheurs aujourd'hui. Quand ils se tournent vers Christ, le voile est ôté. Tout devient clair. Parce que ce voile est ôté en Christ et seulement en lui. Paul écrit, ça c'est je lis dans le deuxième épître, au Corinthiens, c'est chapitre 4, le verset 6, mais je vous lis le verset parce que ça, on ne va pas toujours regarder dans la Bible. « Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs. Pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » Voilà cette illumination dont on a besoin. Et c'est un miracle. C'est un miracle de la grâce de Dieu. Un miracle qui se produit en Christ et seulement en Christ. Et sans cette illumination de l'esprit, personne ne peut comprendre la révélation de Dieu. Personne ne peut la saisir. Personne ne peut admirer, voir la beauté de la sagesse de Dieu dans cette révélation, c'est impossible. Mais si on a cette illumination, si l'Esprit de Dieu est en nous, oui, on comprend. ces gens qui écrivent ceci, mais j'ai oublié de noter la référence, mais ces gens, c'est dans sa première épître, je crois. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement congé. Non, je me trompe tout à fait, c'est dans ce passage que c'est ici, c'est Paul qui dit. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui, la parole de Dieu est évaluée spirituellement. Elle est comprise spirituellement. Elle est appréciée spirituellement. Elle est discernée spirituellement. Sans cette dimension spirituelle dans votre vie, vous ne pouvez rien faire. C'est une sagesse qui demeure un mystère total pour l'homme. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, tout change. Martin Luther, le grand réformateur, avait écrit ceci: La Bible ne peut être comprise par l'étude ou le talent seul. Vous devez compter seulement sur l'influence du Saint-Esprit. Et Jean Calvin, le grand réformateur, a écrit ceci: Le témoignage de l'Esprit est supérieur à celui de la raison, car ces paroles n'obtiendront leur pleine signification dans le cœur des hommes que lorsqu'elles auront été scellées par le témoignage interne de l'Esprit. Oui, le Saint-Esprit doit ouvrir les yeux de notre entendement. Il doit ouvrir notre cœur pour que la lumière divine puisse jaillir et briller. Il est tout autant impossible pour un aveugle de voir et d'admirer et d'apprécier la clarté de la lumière du soleil qu'il est impossible pour un homme irrégénéré, un homme sans l'Esprit de Dieu, de comprendre la révélation de Dieu. Tous les deux manquent de cette illumination dont ils ont besoin. Martin Luther, encore lui, écrira ceci. Il utilise un langage très imagé, parce que c'était vraiment un peu sa caractéristique. L'homme est comme un pilier de sel, comme la femme de Lot. Il est comme une bûche ou une pierre. Il est comme une statue sans vie qui ne peut utiliser ni ses yeux, ni sa bouche, ni ses sens, ni son cœur, à moins qu'il ne soit illuminé, converti, régénéré par le Saint-Esprit. J'aime beaucoup, mes amis, cette doctrine de l'illumination parce qu'elle s'applique à tous les croyants, quels qu'ils soient. La révélation et l'inspiration, bon, ça c'était pour les apôtres, les prophètes, tous ceux qui ont écrit. Mais l'illumination, c'est pour chaque homme, chaque femme, chaque enfant, où qu'il soit, où qu'il vive, quelles que soient ses circonstances, quel que soit son passé. Si cette personne se tourne vers le Seigneur, dans la repentance et la foi, il comprendra. L'homme spirituel, dit Paul, au contraire, juge de tout. Et c'est là, effectivement, ce passage que je voulais vous lire de la première épître de Jean, où Jean dit ceci: Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'il vous a donnés. Alors, mes amis, comprenez bien ce que la Bible dit. Cette doctrine de l'illumination ne veut pas dire que vous pouvez absolument tout comprendre de la révélation de Dieu. Non, ce n'est pas vrai. La Bible dit clairement qu'il y a certaines choses que, voilà, pour le moment, on ne peut pas comprendre. Moïse dira, par exemple, dans le livre de Deutéronome 29-29, Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Mais tout ce que nous avons besoin de savoir au sujet de Dieu, au sujet de soi-même, au sujet du salut, au sujet de la personne et de l'œuvre du Christ, toutes ces choses, vous les comprendrez absolument avec la puissance du Saint-Esprit lorsque vous vous exposez à la révélation de Dieu. La doctrine de l'illumination ne veut non plus pas dire qu'on n'a plus besoin d'enseignants humains. Non, non.
Dieu va illuminer nos cœurs, mais il va utiliser des agents humains pour le faire. Et ça, c'est Paul aux Éphésiens, chapitre 4. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Et cette doctrine de l'illumination, ne venons plus pas dire qu'on ne doit pas travailler dur pour mieux comprendre cette parole. Oui, il faut l'étudier, puis il faut travailler dur pour vraiment pouvoir atteindre tous ces trésors. Paul dira à Timothée, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Mais encore une fois, mes amis, cette doctrine de l'illumination nous dit que tout ce dont on a besoin de savoir pour notre vie, pour notre salut, pour glorifier Dieu, pour apprécier toutes ces bénédictions, on les a grâce à la révélation de Dieu qui nous vient par la puissance du Saint-Esprit. C'est ça, cette illumination. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Alors c'est sûr, mes amis, que puisque le monde ne peut pas comprendre la sagesse de Dieu par ses propres facultés, eh bien, le monde non plus ne peut pas comprendre la foi, votre foi qui habite dans votre cœur. Paul écrit, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. Il est tout aussi impossible pour le monde de comprendre la foi qui habite dans le cœur du chrétien, qu'il est impossible pour lui de comprendre le message de l'Évangile, la sagesse de Dieu, sans l'aide du Saint-Esprit. Oui, je sais, le monde et les incroyants vont juger beaucoup de choses au sujet des chrétiens. Ils vont juger nos fautes, nos manquements. Chaque fois qu'on fait une chose qu'on ne fait pas, ben, ils ne vont pas nous rater, hein. Mais le monde ne peut pas comprendre cette paix qui habite dans notre cœur, cette paix qui transcende toutes nos épreuves, toutes nos difficultés, tous nos revers. Le monde non plus ne peut pas comprendre cette joie qu'on a en Christ qui transcende tous nos chagrins, toutes nos larmes. Le monde n'a pas accès à cela. Il ne peut pas juger cela parce que ça appartient à une autre dimension à laquelle il n'a pas accès sans l'aide du Saint-Esprit. Le monde ne peut pas comprendre les paradoxes de la croix, mes amis. Quelqu'un écrit ceci au sujet de la croix. Je ne sais pas qui, mais voilà la citation que j'ai traduite. La croix est une image de violence, mais elle est la clé de la paix. C'est une image de souffrance. Elle est pourtant la clé de la guérison. C'est une image de mort, mais c'est la clé de la vie. C'est une image de grande faiblesse. C'est pourtant la clé de la puissance. C'est l'image de capital punishment, d'exécution capitale, hein, on dit en français, peine capitale, voilà, peine capitale. Et pourtant, c'est la clé de la miséricorde et du pardon. C'est l'image d'une haine vicieuse. Et pourtant, c'est la clé de l'amour. C'est l'image d'une honte suprême. Et pourtant, elle est la gloire du chrétien. Comment voulez-vous que le monde comprenne ces paradoxes? Il ne peut pas le faire, mes amis. Il n'a pas l'illumination nécessaire. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent vraiment comprendre cela. Oui, le monde peut juger nos péchés, nos faiblesses, nos manquements et tout ce qu'on veut, mais il ne peut pas juger notre foi. Il n'a pas les outils pour cela, il n'a pas les moyens, les facultés. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Mais nous, en tant que chrétiens, mes amis, et c'est là la grâce qui nous a été faite, on peut comprendre la sagesse de Dieu, on peut en voir sa beauté, on peut l'apprécier, on peut se réjouir. On a cette pensée de Christ en nous. Alors, mes amis, si vous avez cette pensée du Christ en vous, si vous avez reçu cette illumination du Saint-Esprit, c'est un grand privilège, mes amis, mais c'est aussi une grande responsabilité. Si Dieu a fait un tel miracle dans votre cœur, c'est dans un but précis. c'est que cette pensée du Christ puisse se manifester au travers de votre vie, de vos paroles, de vos priorités, de vos émotions, de vos désirs, etc. La Bible parle des fruits de l'esprit. Et la Bible dit que ces fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, etc. Pourquoi est-ce que ces fruits de l'esprit sont tellement importants? Et pas tout simplement, ces fruits de l'esprit étaient la caractéristique même du caractère de Christ. Christ était plein de joie, plein d'amour, plein de bonté, plein de longanimité, plein de contrôle de soi. Et Dieu maintenant veut reproduire de plus en plus ces qualités en nous, dans cet homme intérieur. Oui, notre homme extérieur se détruit, dit la Bible, mais notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. On va de progrès en progrès, on est appelé à aller à un niveau de gloire, à un autre, toujours plus haut, mes amis. C'est ça la beauté de l'Évangile. Hein? Quel est le but ultime de votre salut, mes amis? Car tous ceux qu'il a connus d'avance, dit Paul aux Romains, chapitre 8, car tous ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à quoi? À être conformes à l'image de son Fils. Alors voilà, mes amis, le passage. La sagesse de Dieu ne peut pas être comprise avec les ressources humaines seules, c'est impossible. La sagesse de Dieu ne peut être comprise qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Et pour comprendre cette œuvre et ce ministère du Saint-Esprit, il y a trois mots à se souvenir. Il y a une révélation qu'il a donnée. Il y a une inspiration qu'il a faite pour les apôtres, les prophètes. Et il y a une illumination qu'il a accomplie dans le cœur de chacun des croyants pour que nous puissions voir la beauté de la sagesse de Dieu. Amen.